Je voudrais saluer tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer individuellement. Je suis heureux de participer à ce 400e congrès des GBU. Le dernier congrès des GBU auquel j'ai participé, et c'était le seul d'ailleurs, remonte à 30 ans exactement. Je ne sais plus si c'était le 2e, le 3e, le 15e, le 20e. Est-il cohérent? La question est à la limite de l'impertinence, et même on pourrait dire qu'elle dépasse cette limite de l'impertinence. Comment un être humain, cet être qui se montre si tâtonnant, balbutiant, lorsqu'il s'agit d'essayer d'élaborer une pensée cohérente, et encore plus lorsqu'il s'agit de mener une action cohérente, comment l'être humain pourrait-il décemment entrer en débat avec Dieu sur ce sujet? Si je me hasarde à poser la question devant vous ce soir, et à vous inviter aussi à la poser, ce n'est pas par défiance envers Dieu, mais c'est pour nous interroger nous-mêmes sur notre façon de concevoir la cohérence de Dieu, parce que c'est bien nous qui risquons de ne pas comprendre ou de mal comprendre la cohérence de la pensée et de l'action de Dieu. Cette pensée, cette action de Dieu, la Bible nous la donne à comprendre en deux étapes qui sont bien nettement marquées et qu'on appelle l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Et c'est à ce propos que la question de la cohérence de Dieu se trouve souvent posée, mise en question. Et on oppose assez souvent l'image inquiétante, voire terrifiante, que nous offre l'Ancien Testament, avec une image beaucoup plus rassurante, apaisante, que nous donnerait le Nouveau Testament. Et cette opposition, elle trouve au moins une part de justification dans la phrase bien connue qui forme la conclusion du prologue de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il y a donc bien une différence entre les deux alliances. Une différence qui est signalée par un double contraste. Le contraste des figures emblématiques, Moïse, Jésus-Christ, et le contraste des thèmes, des principes. D'un côté la loi, de l'autre la grâce et la vérité. Cette différence, elle n'empêche pas pour autant que d'une alliance à l'autre, ce soit le même Dieu qui poursuive le même dessein. Un dessein dont les deux alliances sont deux étapes distinctes et coordonnées. Alors tout au long de l'histoire de l'Église, les chrétiens, en particulier les théologiens, mais pas seulement eux, les chrétiens n'ont cessé de s'interroger sur cette articulation entre les deux alliances et ils n'ont cessé d'essayer d'élaborer des modèles conceptuels pour rendre compte de cette articulation entre les deux alliances. Je laisse à d'autres personnes plus compétentes que moi le soin d'exposer, de comparer ces modèles. La voie que je vous propose pour pénétrer dans la perception de cette cohérence de Dieu, c'est celle de l'étude biblique. Et je voudrais vous proposer de saisir trois thèmes majeurs d'un livre de l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, en nous efforçant de comprendre pour chacun de ces thèmes la cohérence de l'action de Dieu, d'une alliance à l'autre. Chacun de ces thèmes correspond à une partie importante du livre. Et je vais les énoncer maintenant. Dieu libère. Le thème correspond à la première moitié du livre de l'Exode, au chapitre 1 à 15 en tout cas, on pourrait aller un petit peu plus loin, mais en tout cas les 15 premiers chapitres. Ensuite, Dieu donne sa loi, c'est le thème de la seconde moitié du livre, les chapitres 19 à 40. Et puis, troisième thème, Dieu pardonne. C'est le thème qui correspond à l'épisode du veau d'or, qui est rapporté dans les chapitres 32 à 34 du livre de l'Exode. Contrairement aux deux thèmes précédents, le récit là, n'occupe que trois chapitres, mais il n'est pas exagéré de dire que c'est l'un des thèmes majeurs du livre et de tout l'Ancien Testament d'ailleurs. Et d'ailleurs, à l'énoncé des trois thèmes, je pense que vous aurez saisi que nous sommes au cœur de la révélation biblique. Dieu libère, et c'est le premier thème que nous allons aborder ce soir, thème majeur de tout l'Ancien Testament. Dieu a voulu laisser son nom dans l'histoire comme celui qui a libéré le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Et on le comprend que Dieu ait voulu laisser cette image, parce que c'est une image qui est éminemment positive. Dieu, défenseur des opprimés, des parias, Dieu prenant le parti des faibles contre la plus grande puissance de l'époque. C'est une manifestation à la fois de sa puissance et de sa justice, et de sa miséricorde. Et le récit de l'Exode fait ressortir le caractère odieux de la puissance asservissante. On y trouve les traits des régimes oppressifs qui ont sévi, qui ne cessent de sévir au cours de l'histoire. L'argumentaire xénophobe qui exagère la menace. Voici, les Hébreux sont devenus plus nombreux et plus forts que nous. Il y a les travaux forcés, utilisés non seulement pour réaliser des économies de main-d'œuvre, mais aussi pour décimer les populations qui y sont astreintes. Il y a l'emploi d'auxiliaires parmi les Hébreux pour diviser le peuple. Et cela va jusqu'aux mesures d'élimination directe à la naissance. Faites mourir tous les garçons à la naissance et ne laissez vivre que les filles. Et d'autres traits apparaissent encore dans le débat avec le pharaon. Il y a le refus de tout congé pour motif religieux. Moïse a demandé 3 jours. Pour célébrer une fête, ce congé est refusé. La surenchère dans la cruauté, qui consiste à répondre à des demandes d'allègement des charges par un nouveau renforcement des contraintes. Vous voulez aller célébrer des fêtes? Eh bien, on vous donnera davantage de travail. Il y a le jeu du chat et de la souris, qui consiste à promettre, et puis, au dernier moment, revenir sur ce qui avait été promis. Et enfin, l'acharnement extrême qui amène le pharaon à poursuivre les Hébreux, même après les avoir chassés. Cette image de Dieu qui libère, cette image si positive, on comprend qu'elle ait éveillé au cours des âges la foi, la consolation, l'espérance de beaucoup d'opprimés. Près de nous, par exemple, les esclaves noirs d'Amérique chantaient « Let my people go ». Et puis cette image positive de Dieu, du Dieu qui libère, elle a aussi donné naissance au XXe siècle à tout un courant de la théologie que l'on a appelé théologie de la libération. Cependant, cette image du Dieu libérateur des opprimés, dont on apprécie tant le caractère positif, elle comporte aussi des traits qui sont inquiétants et menaçants. Et on ne peut pas manquer de les percevoir. Le Dieu qui libère les Hébreux est celui qui inflige à l'Égypte des plaies terribles qui sèment la désolation et la mort dans le pays. Jusqu'à la terrible dernière plaie où tout premier-né est frappé. Dieu n'est pas seulement celui qui s'oppose au Pharaon, mais le texte biblique nous le décrit comme celui qui endurcit le cœur du Pharaon pour qu'il s'obstine et fasse ainsi éclater d'autant plus la puissance et la gloire de Dieu. Dieu ne protège pas seulement son peuple contre l'armée du Pharaon, mais il précipite au fond de la mer les chevaux, les chars et les cavaliers, comme le chante le cantique du chapitre 15 du livre de l'Exode. Et si Dieu libère son peuple esclave en Égypte, c'est pour lui donner en possession la terre de Canaan, où vivent les peuples dont la liste est régulièrement répétée dans le texte biblique, Cananéens, Hittites, Amoréens, Phérésiens, Éviens, Jébusiens, et que les Israélites vont avoir pour mission d'éliminer sans pitié lors de la conquête. Hommes, femmes, enfants, vieillards, au nom de Dieu. Et le texte biblique le dit de manière très explicite. Le grand acte de libération qui marque le début de l'histoire du peuple de Dieu comme nation serait-il aussi décevant et aussi inquiétant que la plupart des révoltes ou des révolutions qui se sont succédées au cours de l'histoire, aussi violentes et parfois plus encore plus violentes et cruelles que les régimes oppressifs auxquels elles devaient mettre fin. Libération pour Israël, catastrophe pour l'Égypte, génocide pour les Cananéens. Le dilemme est sérieux parce qu'il touche à la méchanceté humaine. Méchanceté des oppresseurs, mais aussi méchanceté des victimes, des opprimés. Est-il possible de vaincre l'oppression sans éliminer les oppresseurs? Et question encore plus inquiétante, angoissante, est-il possible de vaincre une oppression sans que les opprimés, une fois libérés, ne se transforment en oppresseurs? Les opprimés qui sont objectivement victimes de ceux qui les oppriment, et il n'y a absolument pas à contester le fait qu'ils soient des victimes, ces opprimés sont-ils foncièrement meilleurs que leurs bourreaux? Ou se trouvent-ils simplement dans une situation qui ne permet pas à leur méchanceté de se donner libre cours? Face à ce dilemme, le chrétien éclairé par la révélation de la Nouvelle Alliance, le chrétien peut répondre que la vraie libération opérée par Dieu, c'est une libération spirituelle, une libération qui touche au cœur de l'être humain. Et pour accomplir cette libération, Dieu ne s'est pas contenté de mandater un homme comme Moïse pour parler en son nom à l'oppresseur, pour lui dire « laisse partir mon peuple » pour accomplir des prodiges nécessaires à sa libération. Dieu, pour accomplir cette vraie libération, cette libération fondamentale, a envoyé son propre fils, son fils unique. Dieu s'est directement impliqué. Dieu a payé de sa personne dans le sens le plus fort du terme. Lorsque Dieu s'adressait à Moïse pour lui faire comprendre que maintenant il allait s'occuper personnellement, s'impliquer personnellement dans la situation de son peuple qui était dans l'esclavage et qui était menacé d'extermination depuis deux régimes successifs, enfin, deux règnes successifs en Égypte. Dieu disait à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Exode 3, versets 7 et 8. Je suis descendu. C'est une façon de dire que Dieu, qui semblait loin de son peuple, le laissant à la merci de l'oppresseur, c'est une façon de dire que Dieu va maintenant s'impliquer directement dans l'action. On va le voir à l'œuvre. Mais en Jésus-Christ, Dieu est vraiment descendu, concrètement, physiquement, pour opérer la grande œuvre de libération. Et pour racheter non seulement une génération d'Hébreux qui étaient esclaves en Égypte, mais pour racheter des êtres de toutes les générations, des êtres de tous les peuples, pour libérer non pas seulement d'un tyran humain, mais pour libérer de la puissance du diable lui-même, une puissance bien plus redoutable que celle du pharaon. Et pour libérer non pas seulement de la mort physique à laquelle étaient condamnés les esclaves hébreux, mais pour libérer de la condamnation qui est prononcée sur tous les hommes, sur nous tous à l'autre, à cause de notre culpabilité devant Dieu. Voilà la vraie libération opérée par Dieu, et nous l'avons déjà célébrée au début de ce congrès. C'est par rapport à cette libération-là, qui nous est aujourd'hui accessible dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons considérer que l'Exode n'est qu'une image, n'est qu'un type, une préfiguration. Ce qui constituait la grande libération de l'Ancienne Alliance était en fait l'annonce d'une autre libération qui est bien plus grande encore, qui est bien plus profonde, qui est bien plus glorieuse, qui est bien plus définitive, et nous pouvons aujourd'hui en être les bénéficiaires. Cette libération-là est si centrale, si fondamentale, qu'elle étend son influence sur toute l'histoire humaine, depuis les origines jusqu'à la fin des temps. Là, nous pouvons percevoir la cohérence de l'action de Dieu. Et cette cohérence, elle est bien perceptible dans certains traits caractéristiques de la libération de l'Exode. On pourrait en relever plusieurs. Je voudrais aller à l'essentiel. Le point focal de cette libération, le moment décisif qui devra être rappelé chaque année lors de la fête de Pâques, c'est l'immolation d'un agneau. On immole un agneau dont le sang doit être porté sur les montants et sur le linteau de la porte. Dans chaque maison, l'agneau doit être immolé. Et dans chaque maison, la porte doit être marquée avec son sang. C'est la dernière plaie. Celle qui va enfin décider le pharaon à laisser partir les Hébreux. Et c'est la plaie la plus terrible. Une plaie qui va toucher chaque famille, depuis la plus noble jusqu'à la plus humble, depuis la cour du pharaon jusqu'à la famille d'esclaves. Dans chaque famille, il y aura un mort. Le fils aîné, c'est la dernière arme employée par Dieu pour faire plier l'oppresseur. Mais si Dieu a décidé de frapper ainsi les Égyptiens, pourquoi les Hébreux doivent-ils se prémunir contre la plaie? Lors des plaies précédentes, il arrivait qu'elles frappent, assez souvent les plaies frappaient indistinctement les Hébreux et les Égyptiens. Mais pour certaines d'entre elles, Dieu a tenu à distinguer les opprimés et les oppresseurs. Il a tenu à ne pas faire subir aux opprimés les malheurs qui étaient destinés à faire fléchir les oppresseurs. Ça se produit à la quatrième plaie, les mouches venimeuses. Dieu dit ceci: je ferai une distinction entre le pays de Goshen et où se tient mon peuple, et là il n'y aura pas de mouches, afin que tu saches que moi, le Seigneur, je suis au milieu de ce pays. Je mettrai, alors là il y a une différence de texte, le texte hébreu dit une libération, le texte grec dit une distinction, alors on ne sait pas trop si il y a eu une erreur de copie à un moment, ou si vraiment le texte dit c'est une libération entre mon peuple et ton peuple, chapitre 8, versets 18 et 19. Et puis on retrouve de nouveau une distinction à la cinquième plaie, lors de la peste du bétail, chapitre 9 et verset 4, à la septième plaie, la grêle, et à la neuvième plaie, l'obscurité. On ne peut pas imaginer que Dieu ne sache pas distinguer les Hébreux des Égyptiens. Je reviens donc au signe distinctif. Imaginable que Dieu ne sache pas distinguer les Hébreux des Égyptiens, il faut qu'il faille ce signe distinctif sur les maisons des Hébreux pour éviter toute erreur. Au cours des guerres, il se produit de ces accidents tragiques où les soldats sont abattus par les tirs de leur propre camp, ce qu'on appelle les tirs amis. On en meurt quand même. Dieu ne saurait être sujet à ce genre d'erreur de calcul ou d'appréciation, même en pleine nuit. Pourtant, c'est bien à l'attention de Dieu que le signe doit être apposé sur les maisons. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Vous servira de signe, mais ce n'est pas un signe uniquement pour vous. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Chapitre 12, verset 13. Et l'idée est reprise encore, pour bien insister, au verset 23, au verset 27 du même chapitre. Et au verset 27, il constitue l'explication qui est donnée au Fils. Le Fils qui s'interroge sur le rite de la Pâque, alors on lui répond: c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur du Seigneur qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte quand il frappa les Égyptiens et préserva nos maisons. Pourquoi ces signes? Deux explications complémentaires peuvent être avancées. D'abord, par ce signe, les Israélites expriment leur foi. Et cette foi apparaît indispensable à leur salut. Les Israélites ne bénéficieront pas de la délivrance sans avoir eux-mêmes, dans chaque famille, dans chaque maison, manifesté par un geste concret qu'ils font confiance à Dieu, qu'ils prennent au sérieux ce qui leur a été dit. Lors de la septième plaie, la grêle, Dieu avait donné au Pharaon une occasion similaire de montrer qu'il prenait au sérieux la parole de Dieu. En annonçant la grêle pour le lendemain, Moïse doit ajouter à l'attention du Pharaon: fais donc mettre en sécurité tes troupeaux, tout ce qui est à toi dans la campagne, La graine tombera sur tous les hommes, sur toutes les bêtes qui se trouvent dans la campagne et qui n'auront pas été rassemblées dans les maisons. Ils mourront. Et ceux des serviteurs qui craignirent la parole du Seigneur, rapporte le récit, firent retirer en hâte dans les maisons leurs serviteurs et leur bétail. Mais ceux qui ne prirent pas à cœur la parole du Seigneur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans la campagne. C'est donc bien un signe de foi que Dieu demande aux Israélites. Mais pourquoi ce signe de foi pour protéger de la plaie? Et non pas, par exemple, pour être admis au départ. Et pourquoi du sang? Le signe souligne bien que les Israélites eux-mêmes auraient dû être frappés de la même plaie que les Égyptiens. Ce signe est donc en même temps un signe de grâce. Un signe de la grâce dont bénéficient les Israélites au moment de leur libération. De quoi sont-ils invités à se souvenir en rapport avec cette libération? Que les Égyptiens ont été frappés, qu'eux ont pu enfin s'échapper. Le récit rapporte tout cela avec beaucoup de détails utiles, mais ce qui est au cœur du rite de la Pâque, c'est l'agneau. C'est le souvenir qu'ils auraient pu mourir, que chaque premier-né aurait pu être frappé, comme l'ont été tous les premiers-nés des Égyptiens. Et c'est là un souvenir de libération tout à fait étonnant, paradoxal. Quel est le peuple qui célèbre sa libération de cette façon-là? De quoi se souviennent ceux qui ont été libérés? Ils se souviennent d'avoir été épargnés par Dieu. Lors de l'acte même de la libération, où ils auraient pu subir le même sort que leurs oppresseurs. Un agneau par famille, là où il y aurait eu un mort par famille. Et la chose est encore soulignée au chapitre suivant de l'Exode, chapitre 13. Le chapitre 12 parle de l'institution de la Pâque, et le chapitre 13 évoque la coutume obligatoire du rachat des premiers-nés. Tout mâle premier-né, parmi les animaux, comme parmi les êtres humains, doit être offert en sacrifice à Dieu pour les animaux, racheté pour les êtres humains. Et l'explication du rite est donnée de nouveau à l'attention du fils qui pose la question. Comme le pharaon refusait avec dureté de nous laisser partir, le Seigneur a fait mourir tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des humains jusqu'aux premiers-nés du bétail. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice au Seigneur tout aîné parmi les mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Et le texte ajoute, ce sera comme un signe, le même mot qui était employé en rapport avec le signe du sang lors du rite de la Pâque. Le sacrifice de l'agneau qui est au cœur de la libération renvoie en fait à la question dérangeante, impertinente de la méchanceté des victimes. Une méchanceté potentielle. Je lui dis que les victimes, ce sont ceux qui ne sont pas en mesure d'être méchants. Mais c'est une méchanceté qui est déjà même réelle. Dès les premières tentatives de Moïse pour secourir les siens, le récit nous fait au moins entrevoir cette méchanceté sordide et désolante. entre hébreux et égyptiens, hébreux opprimés, égyptiens oppresseurs, Moïse, le premier jour où il est sorti, a pris parti. Il a tué l'Égyptien qui frappait l'un de ses frères. Exode chapitre 2, versets 11 et 12. Mais le second jour, lorsque Moïse sort, la même scène se reproduit, mais entre deux Hébreux. Les opprimés, eux aussi, se frappent entre eux. Et là, Moïse ne parvient pas à s'imposer pour mettre fin à cette oppression interne. Son exploit de la veille, qui aurait dû lui valoir quelques considérations de la part des siens, au contraire, son exploit est cité contre lui, et d'une façon qui lui fait craindre avec raison le pire. Ses frères, en tout cas certains de ses frères, préfèrent leur intérêt personnel, préfèrent leurs querelles individuelles à la cause du peuple opprimé. Une cause pour laquelle Moïse, lui, vient de renoncer à tous les avantages qu'il avait et de prendre les plus grands risques. Dieu a pris le parti de son peuple opprimé contre les Égyptiens qui l'opprimaient. Dieu a pris le parti des victimes contre les bourreaux. Mais Dieu ne considère pas pour autant les victimes comme innocentes devant lui. Devant lui, devant Dieu. Opprimés et oppresseurs se retrouvent coupables sous la menace d'un châtiment commun auquel on ne peut échapper que par grâce. La cohérence avec l'œuvre de libération, la grande œuvre de libération accomplie par Jésus, cette cohérence est impressionnante. Et elle est soulignée dans tout le Nouveau Testament, par l'emploi du symbole de l'agneau pour évoquer la figure de Jésus-Christ. C'est ainsi que Jean-Baptiste présente Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Paul écrit aux Corinthiens, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et Pierre rappelle à ses lecteurs qu'ils ont été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Et dans l'Apocalypse, c'est là que l'image et la plume envahissante, l'agneau devient le titre préférentiel que reçoit Jésus. Dans l'Apocalypse, Jésus est plus souvent appelé l'agneau que Jésus. Le fait même que la mort de Jésus ait eu lieu à l'occasion de la fête de Pâques relie étroitement les deux événements, et Jésus lui-même en instituant le souvenir de sa mort au cours du repas de la Pâque, a rendu ce lien tout à fait explicite. Il n'y a rien de plus fondamental dans le message biblique, et c'est là que se trouve la cohérence majeure du dessein de Dieu. Mais il nous faut quand même revenir en arrière parce que nous avons laissé en suspens plusieurs aspects inquiétants de la libération de l'Exode. Les malheurs survenus aux Égyptiens, l'endurcissement du cœur par Dieu du cœur du Pharaon et l'extermination des Cananéens. Une fois la cohérence repérée entre la libération ancienne, qui est le type, qui est l'image, qui est la préfiguration de la libération nouvelle, parfaite, accomplie par le Christ, que faut-il faire? Que devons-nous faire de ces aspects inquiétants? tous ces aspects qui font précisément dire à certains que le Dieu de l'ancienne alliance serait différent de celui de la nouvelle. Faut-il les considérer comme des imperfections qui sont caractéristiques de ce qui n'est qu'une préfiguration de la vraie libération accomplie par Jésus? Parce que dans cette libération-là, l'ennemi est vaincu, ce n'est pas l'armée du Pharaon qui est noyée dans la mer, ce ne sont pas les Cananéens qui sont exterminés, mais c'est l'adversaire lui-même, celui qui tient les hommes prisonniers du péché. Et dans cette libération-là, Dieu ne triomphe pas en écrasant l'oppresseur humain, mais Dieu triomphe en donnant son propre Fils. Non pas seulement premier-né d'Égypte, mais son Fils unique. C'est la menace même encourue par les oppresseurs et les opprimés que Dieu prend sur lui pour nous en délivrer. La mort d'un agneau qu'on égorge de toute façon lorsqu'il s'agit de faire un bon repas, la mort d'un agneau ne peut en rien absoudre des coupables. Comment un agneau pourrait-il compenser la perte d'un fils aîné? Seule la mort du Christ peut libérer parfaitement, totalement, de la culpabilité contractée devant Dieu. Et le caractère dramatique de l'ancienne libération, avec les nombreuses victimes qui en ont fait les frais, ce caractère dramatique préfigure le caractère encore plus dramatique de la nouvelle libération, où ce ne sont plus des coupables qui subissent les conséquences de la libération, mais l'innocent par excellence, le seul innocent que la terre ait jamais porté. Et où Dieu lui-même reporte sur son propre Fils toute la colère, le châtiment que mérite la méchanceté des humains, assumant ainsi en lui-même, contre lui-même, cette violence qui inquiète tant à la lecture des récits de l'Ancien Testament. Alors est-ce à dire que maintenant cette colère contre le mal soit entièrement éteinte? Elle l'est assurément pour celui qui croit. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais l'Écriture nous rappelle que cette colère subsiste contre le mal qui ne cesse de sévir. Même l'épître de Paul aux Romains au chapitre 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité captive. Et cette colère, déjà perceptible aujourd'hui dans tant de malheurs et de misères de notre monde, mais encore contenue, cette colère, Dieu lui donnera libre cours au jour de son jugement annoncé dans l'Apocalypse comme le grand jour de la colère de l'agneau. Apocalypse 6, versets 16 et 17. Je précise que les deux textes que je viens de citer appartiennent au Nouveau Testament, ce qui souligne bien la cohérence de l'action de Dieu d'une alliance à l'autre, dans le châtiment et dans la grâce. Et l'erreur que l'on commet aujourd'hui en opposant trop sommairement la grâce de la nouvelle alliance à la sévérité de l'ancienne. Alors nous ne sommes qu'à la première étape de notre parcours, nous aurons encore l'occasion de méditer sur ce thème avec d'autres parties du livre de l'Exode. Confiance dans la cohérence de Dieu, elle est le salut de celui qui croit. Confiance même lorsque cette cohérence heurte notre logique, notre sensibilité. Dieu serait-il Dieu s'il est.
Exode 15 parle de l'hymne de louange, peuple de Dieu, par rapport à la libération. Je suis frappé de ce que tu as dit par rapport à la Pâque et le devoir de se mémorer de ce que Jésus a fait et de ce que Dieu a fait.
Oui.
C'est intéressant, cette différence entre cette louange, parce que Exode 15 semblerait être un texte très important, mais qui est en relief avec